Je vous en ai parlé dès le début de l'émission. On avait très hâte de retrouver Daniel Brière. Le voici aux amateurs de sport. Bien le bonsoir, Daniel.
Salut, mon Mario.
Salut, mon Dan. Je l'ai dit, la question que je te poserais d'entrée de jeu dans notre conversation aux auditeurs tout à l'heure en ouverture à 18h30, puis j'ai même osé deviner la réponse à voix haute. Fait que là, j'espère que je me suis pas trompé. Et la question est la suivante. De quoi tu t'ennuies le moins depuis que tu n'es plus un joueur de la Ligue nationale, Daniel?
Ben écoute, pour moi, je disais toujours, la pire journée de l'année, c'était l'ouverture des camps où tu dois te présenter, faire tous les tests physiques, tous les tests avec les docteurs. Donc ça, je l'ai déjà dit. Mais tu sais, c'est comme le cumulement de tout ce que tu as fait au cours de ton été. Depuis que j'ai eu la chance de prendre ma retraite, là, c'est probablement cet aspect-là qui me manque le moins. Je dis souvent aux gens que je suis encore des entraînements en gymnase, mais c'est plus du training que je fais, c'est juste pour bien me sentir, puis pouvoir prendre là une coupe de bière le soir de temps en temps.
C'est correct, c'est ça les joies de la retraite dans le sport professionnel et tout sport confondu et même loin du sport. Mais est-ce qu'on a vraiment idée? T'sais, on le sait que les joueurs s'entraînent, on a une petite idée. Il y a des gens qui savent à quoi ça ressemble un entraînement d'un joueur, mais je pense pas que les gens savent à quel point c'est vraiment intense, Daniel. Tu sais, un été de gym maintenant, les gars qui jouent actuellement, c'est... Combien de semaines tu peux décrocher vraiment là du gym avant de dire « OK, je prépare ma prochaine saison » et que je sache, je pense que des fois, c'est au moment de revenir dans le gym qu'il y en a qui disent « Je vais prendre une année off », peut-être comme Justin Williams vient de l'annoncer cette année en Caroline.
Ouais, ouais, ben tu sais, les choses ont changé beaucoup. Je me souviens, il y a une vingaine d'années, quand je commençais, je te dirais qu'il y avait peut-être la moitié des joueurs qui s'entraînaient sérieusement. Aujourd'hui, là, je te dis que 90 à 95% des joueurs s'entraînent à pleine allure. Puis là, quand je dis ça, là, c'est du 2 heures et plus, 3 heures, 4 heures en entraînement, en gymnase, en plus de ce qu'on fait, ce que les joueurs vont faire sur la patinoire. Ça, c'est une chose que moi, j'ai pas eu la chance de faire autant. Tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup, là, on parlait de Patrick Kane, Austin Matthews, qui suivent des cours sur la patinoire pour améliorer leur talent offensif. Moi, j'ai jamais eu la chance de travailler avec un entraîneur comme ça sur la glace. C'était seulement hors glace. Mais aujourd'hui, là, c'est là qu'on en est rendu. Les joueurs vont passer 2 à 3 heures en gymnase. Après, ils vont aller passer 1 heure ou 2 sur la patinoire à s'entraîner. Donc, c'est rendu des journées presque pleines pour ces joueurs-là dans la saison estivale. Puis il y a plus beaucoup de temps mort. Moi, je me souviens, là, quand la saison finissait, je prenais 2 à 3 semaines de repos. Laisser les blessures guérir un peu, puis on repartait tout de suite. J'aimais pas ça, m'arrêter trop longtemps, parce que plus longtemps tu t'arrêtes, plus ça devient difficile de recommencer. Donc, 2-3 semaines maximum, on repartait la machine. Puis pendant la saison estivale, on s'entraîne peut-être, dépendamment de la longueur de nos séries éliminatoires, on peut s'entraîner de 3 à 4 mois. Là-dedans, je te dirais, il y a peut-être 1 semaine là, en milieu, normalement, quand les entraîneurs vont dire aux joueurs, OK, vous avez une semaine ici là pour une semaine de congé, une semaine de repos pour refaire vos forces avant de repartir pour le sprint final là, de l'entraînement. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entraînement, de temps d'arrêt là, pour le sport de nos jours.
Vraiment pas, puis je craindrais toujours, mais c'est vrai que là, c'est au niveau du sport professionnel qu'à un moment donné, un athlète puisse vivre une espèce d'écœurantite aiguë d'être trop sur la glace ou d'être trop à l'entraînement. Je sais pas s'il y a un piège de ce côté-là, Daniel, mais je dois te dire que comme observateur, quand je constate que ce soit toi dans le temps ou David Perron ou Carey Price, que je sais qu'il a revêtu son équipement de gardien au milieu du mois de juillet dans l'Ouest ou que Malkin patine à Moscou depuis 1 mois et demi avant la saison puis le camp, je me dis, maudit les gars, tu sais, faut que t'aimes ça là, tu sais, faut que t'aies le désir de. Puis ça me touche parce que ça, tu sais, ton ami Joël Bouchard nous parlait de passion tout à l'heure en ouverture d'émission, tu sais que c'est absolument essentiel. Mais entre la passion et le risque de t'écœurer, là, y a-tu une marge, Daniel?
Ouais, ben écoute, je le suggérerais pas aux jeunes là, tu sais, les joueurs de hockey en bas de 15 ans. Jamais que je vais suggérer un entraînement comme ça. Ils ont besoin de toucher à d'autres choses. Ils ont besoin de jouer d'autres sports. Ils ont besoin de s'amuser parce que oui, tu peux te tanner. Mais quand tu te retrouves au niveau professionnel, surtout, écoute, c'est ta vie. C'est ton travail.
C'est donc, pas pareil.
C'est sûr que c'est pas pareil. Il y a pas tout le monde que tu sais, on entend souvent des histoires de joueurs qui détestaient jouer au hockey, mais qui le faisaient parce que c'était leur vie, c'était leur travail. Donc ça, je peux le comprendre. Je t'avoue qu'à quelques reprises, je me suis peut-être senti comme ça, mais en général, j'ai toujours adoré le hockey. J'étais toujours excité là par la chance d'embarquer sur la patinoire.
Autre sujet, Daniel. Je pense qu'on l'a déjà abordé à quelques reprises, mais je le relance, puis il y a toujours quelque chose de différent qui en ressort. Est-ce que c'est difficile de se faire accepter par un groupe d'hommes, parfois, qui ont tout près de 40 ans, là, entre 20 et 40 ans? Quand tu arrives dans un vestiaire de hockey, là, t'as parfois 18, 19, 20, comme Kotkaniemi. Est-ce que tout le monde est nécessairement super gentil avec nous dans une ligue qui est devenue une ligue de jeunes où les vétérans se font indiquer la porte de sortie parce qu'on fait de plus en plus de place aux jeunes? Ouais. Est-ce que c'est facile d'entrer dans un groupe?
Non, c'est pas facile. Puis ça, c'est un très, très bon point, tu sais, d'arriver dans un groupe, de se faire accepter dans un groupe. Des fois, là, je me demande si on n'est pas à l'apogée d'arriver à quelque chose où il va y avoir des cours comme ça pour enseigner aux jeunes joueurs, parce que c'est comme dans n'importe quel emploi. Tu sais, il y a des gens qui arrivent, puis ils ont le néo un petit peu dans le monde du hockey, on les appelle les coquilles. Ils se prennent pour d'autres un petit peu, ils veulent montrer qu'ils ont leur place. Tu sais, c'est pas une bonne approche, je te dirais, d'arriver dans un groupe de joueurs comme ça, que ça fait des fois des années qu'ils jouent ensemble. Je pense que on pourrait probablement aider les jeunes beaucoup plus de ce côté-là. Comment approcher, comment aborder un nouveau groupe de joueurs, surtout des vétérans de la Ligue nationale, qui, tu sais, je le cacherai pas, là, il y a des joueurs comme ça qui sentent comme si on leur doit le respect, parce que ça fait quelques années qu'ils sont là, c'est vieux jeu, je le sais. Mais c'est comme ça que ça marche dans le monde du hockey. Oui, c'est un petit monde, mais je pense qu'on pourrait peut-être faire une meilleure approche, meilleure éducation pour ces jeunes-là quand ils arrivent, leur enseigner comment se faire accepter dans un groupe, surtout là dans le monde du hockey. Je pense que ça aiderait beaucoup plusieurs jeunes joueurs de hockey là, qui arrivent dans ces circonstances-là.
Ça date pas d'hier, mais tu l'as vécu. Toi, as-tu trouvé ça facile ou il y a eu des écueils puis il y a eu du monde qui te faisait sentir pas nécessairement au mieux, qui te faisait pas sentir complètement confortable dans l'environnement d'une équipe?
Oui. Ah oui, il y a toujours des joueurs comme ça qui te laissent savoir. Puis tu sais, faut pas oublier là, ces joueurs-là, même s'ils sont des coéquipiers, souvent tu te bats contre eux autres pour un poste.
Ouais.
Donc ils peuvent prendre des façons, tout le monde a des façons différentes, puis ils peuvent essayer de t'intimider pour te laisser savoir que hey, écoute, c'est le kid là, c'est mon spot à moi, tu viendras pas prendre ma place. Puis on peut te donner un peu de la difficulté à te faire accepter dans le groupe. Donc c'est important de savoir quand repousser, quand accepter. On appelle ça là les.
C'est prendre juste les initiations dans le temps. Là, je pense qu'il y en a de moins en moins. Ouais. Les gars, ils ont le bill, mais il y avait matière à abus des recrues là, pour ceux qui voulaient se payer à traite. J'espère que ça a évolué. Puis j'espère qu'il y a des gars dans chaque vestiaire qui sont capables de dire « Hey, c'est assez, là. » T'sais, j'imagine qu'avec un Shea Weber, par exemple, à Montréal, là, je serais bien surpris que ça soit pas ça. Mais il y a des groupes que t'as pas des chefs aussi forts, là.
Non, ça a changé beaucoup de ce côté-là. Puis là, c'est important que, tu sais, quand on parle d'une équipe qui a du leadership, tu sais, c'est une des choses importantes. Avoir du bon leadership, c'est que les meilleurs joueurs de l'équipe, les leaders de l'équipe, se laisseront pas emporter par ceux qui aiment ça faire du trouble. Donc, quand tu as des gars comme Shea Weber puis Carey Price qui sont tes chefs de file, t'es capable d'avoir puis d'amener ces jeunes-là à t'aider beaucoup plus, puis à les faire sentir comme ils font partie de l'équipe, que si t'as des mauvais chefs de file là, qui marchent juste par la peur, puis qui essayent de sauver leur poste plus que d'autres choses. Ça, c'est un côté là de leadership qui est très, très important pour le futur d'une organisation, pour le développement des jeunes joueurs qui arrivent pour aider cette franchise-là.
J'ai envie juste de prolonger un petit peu là-dessus, parce que je trouve que c'est quelque chose d'important à quoi on touche. Et il y en a qui... un des éléments les plus critiqués de la transaction Subban-Weber, puis là, je reviens pas sur la transaction, c'est l'âge de Shea Weber. Mais ce que Marc Bergevin voulait vraiment aller chercher en lui, c'est du leadership. Et c'est beau que ce soit une ligue de jeunes. Je pense qu'il y a un risque. Une équipe qui n'a plus de vétérans pour accueillir ces groupes de jeunes, où tu as des gars juste qui sont l'autre bord de 25, mais pas bien expérimentés, Et je pense que ça n'a pas de prix qu'un gars comme Weber, même si oui, on aurait aimé ça qu'il ait le même âge, 2 ans de plus jeune que Piqué, ce qui t'amène comme colonne vertébrale là pour accueillir tout le monde, ça n'a pas de prix. Puis, tu sais, il y en a qui parlent de la possibilité de l'échanger un jour, peut-être pour une équipe dans le dernier droit si tu fais pas les séries. Je pense que tu veux pas te départir de cette colonne vertébrale-là quand tu te mets la main dessus, Daniel. Qu'est-ce que tu en penses?
Non. Mais tu as entièrement raison. Puis c'est difficile parce que c'est pas quelque chose qui est concret. On peut pas le voir dans les statistiques ce qu'un Shea Weber va emmener
exact.
Dans la salle, malheureusement. Mais il n'y a pas de doute que des joueurs comme ça sont importants. Quand on parle de ça, moi, un exemple qui me frappe en pleine face quand je pense à ça, c'est les dernières années, si on passe les 10-12 dernières années des Oilers d'Edmonton qui ont des choix de première ronde, premier overall, année après année après année, qui ont des jeunes après des jeunes, mais qui ont jamais eu de gros vétérans depuis que Chris Pronger est parti. Ils n'ont pas de vétérans solides comme chef de file. Puis regarde que l'organisation, ça semble aller nulle part d'année en année. T'as un Connor McDavid qui a pas le choix, qui est capitaine à 19-20 ans déjà, mais qui a pas d'aide pour l'aider dans la chambre. Éventuellement, je pense que Connor McDavid va être un bon vétéran, mais ça aurait été beaucoup plus facile si des gars comme lui, puis des gars même qui ont passé avant lui, quand je pense à Taylor Hall, des Nugent Hopkins, qui ont été repêchés premier overall, s'il y avait eu de l'aide, Jordan Eberle aussi, si ces gars-là avaient eu de l'aide, là, peut-être que cette franchise-là serait complètement différente aujourd'hui, mais ils n'ont jamais eu de leadership fort, puis je pense que ça les a toujours frappés en pleine face, puis encore aujourd'hui, c'est une des raisons pourquoi les Oilers font partie du bas du l'échelon, encore une fois, l'an dernier.
Et on reviendra dans une autre chronique à un moment donné sur tout ce qu'on ne voit pas sur la glace ou dans les stats, mais qui sont importantes dans le quotidien d'une équipe de hockey. Mais j'enchaîne avec autre chose, puis il y a quand même un lien avec Shea Weber, parce que Charles Hudon a tellement dit bien de Shea Weber. Charles Hudon, un gars qui aurait eu bien des raisons de se sentir écarté de l'équipe tellement il n'a pas joué souvent l'an passé, mais qui a dit à quel point un gars comme Shea Weber prenait soin de tout le monde dans l'équipe, même d'un gars qui a un statut comme celui de Charles. Mais c'est pas ça le sujet sur lequel je voulais t'amener. La mâchoire m'a tombé quand j'ai constaté que Charles avait perdu 17-18 livres avant d'arriver au camp cette année. J'ai dit, aïe, où c'est qu'il a pris ça? Tu sais, fait là, finalement, bon, on se renseigne un peu. Puis là, il y a la fin de saison, pas la dernière, mais l'avant-dernière, on lui dit, prends du coffre. Fait que là, il a pris du coffre, ça a pas donné de résultat. Là, cette année, on lui a dit, ben, perds-en. Il revient avec 17 livres en moins. Il dit, bon, mais je vais miser sur ma rapidité ou essayer d'être plus rapide. Ça te rappelle-tu quelque chose, Dan? Il me semble qu'on a déjà jasé de ça, que ça t'est arrivé quelque chose dans le genre.
Ben oui. Écoute, à mon deuxième camp professionnel à Phoenix, je me souviens, Jim Schoenfeld, à la fin de l'année, m'avait rencontré puis il m'avait demandé, lui aussi, jouer aux alentours de 170, 172 livres à 19-20 ans, puis il m'avait demandé, m'avait dit qu'il voulait que je revienne à 190 livres l'année suivante. Je me souviens, j'étais présenté au camp à 189 livres la saison suivante. Puis après 2 semaines de camp, je m'étais même pas rendu au bout. 2 semaines de camp, on m'a appelé dans le bureau pour me dire qu'on m'envoyait dans les mineurs directement parce que j'étais rendu trop lent. Donc je l'avais regretté. Ça m'avait pris au moins 2 à 3 mois même dans les mineurs parce que j'avais eu de la difficulté à me replacer, à avoir pris autant de poids. Puis oui, j'étais gros, j'étais gonflé, mais ça m'aidait pas sur la glace. Puis souvent, quand je rencontre des jeunes comme ça, moi, je leur dis... continuez dans le même chemin que vous avez été depuis des années, parce que de mettre 10, 15, 20 livres dans un été, là, c'est pas facile. Même si l'équipe te dit on veut que tu reviennes puis que tu mettes 20 livres l'année prochaine au camp d'entraînement, moi je leur dis toujours faites à votre tête, parce que eux autres là, ils s'en foutent à quel poids que tu arrives, c'est ce que tu vas leur donner sur la patinoire. Donc je regrette d'avoir fait ça. Ça m'avait coûté une saison, au moins une demi-saison que j'avais dû aller passer dans les mineurs.
Leur en as-tu voulu?
Non, je m'en voulais plus à moi que d'autres choses, de les avoir écoutés. Puis écoute, je le voyais, puis je le ressentais sur la patinoire que j'étais pas capable de suivre, que j'avais plus, tu sais, ma force, moi, ce qui me démarquait, c'était ma vitesse. Puis là, j'avais plus ça, je pouvais plus me démarquer. Donc, j'étais choqué envers moi. De m'avoir laissé embarquer comme ça. Puis je comprends qu'eux autres, ils voulaient un Daniel Briard plus gros, plus fort pour aller dans un coin, puis être capable de gagner des batailles physiques. Mais j'ai réalisé plus tard que c'est pas ça qui était ma force. Puis si je perdais la vitesse qui me permettait de me démarquer, puis là, même si je devenais gros, je perdais ce qui me différenciait des autres joueurs sur la patinoire. Donc, je m'en étais voulu. Puis par la suite, quand je suis revenu, le reste de ma carrière, j'ai toujours joué aux alentours de 175 livres. C'était là que je me sentais à mon mieux.
Quelles belles histoires, quelles belles anecdotes. Je sais pas si Charles Hudon entend ça, mais j'espère qu'il pourra rebondir cette année comme tu l'as fait après.
Ben, j'ai hâte de voir, oui.
Ben,
j'ai hâte
aussi.
De voir comment il va se sentir.
Ben, j'ai vraiment hâte de voir, mais j'en revenais pas là, autant d'écart d'une saison à l'autre. Là, tu dois te demander où c'est que tu t'en vas. Mais c'est important de s'écouter comme tu viens de si bien le dire. Et une petite dernière en terminant, Daniel. Étais-tu un maniaque au-delà de l'arrivée au camp d'entraînement des matchs hors concours? Je sais que Patrick Kane aime ça jouer un minimum de 4 matchs hors concours. Je disais ça dans un article. Mais il y en a que le moins possible qui aiment ça juste jouer les derniers. Dans l'ensemble, les vétérans que tu as connus, puis toi, là, les gars, aiment-tu ça en jouer le moins possible ou un minimum?
Oui, je te dirais que la majorité des joueurs aiment ça en jouer le moins possible. Moi, j'étais un peu comme Patrick Kane. Ça m'en prenait au moins 4 ou 5. J'aimais ça jouer les matchs parce que je suis un gars où, pour moi, comme on dit, le feel sur la patinoire est confortable. Retrouver mes repères. J'étais un peu un joueur différent d'un autre joueur où il est là pour frapper, où il y a ses guides. Déjà, moi, mes guides, c'était de bien me sentir, de retrouver mes joueurs. Donc, j'avais besoin de jouer le plus possible. Puis je me souviens qu'en début de saison, tout au long de ma carrière, j'ai toujours eu des lents départs. Donc, pour moi, là, de jouer le plus de matchs possible en de pré-saison. Puis à quelques reprises, je suis allé demander aux entraîneurs de me mettre dans l'alignement pour pouvoir en jouer le plus possible, pour mieux me sentir quand la saison commençait. Mais en général, là, c'est très rare. La majorité des joueurs aiment ça en jouer le moins possible.
Hey Daniel, faut que j'arrête ça, pas parce que c'est pas bon, mais parce que l'horloge me parle. Mais c'était fort intéressant. Merci beaucoup, mon cher, et j'ai déjà hâte à notre prochaine conversation la semaine prochaine.
Ben, pareillement.
Bye-bye,
merci
Daniel. Une excellente soirée. Et dans un instant, la valeur de Bianca Andreescu, vue par notre agent et chroniqueur sport business Ray Lalonde. Et aussi, est-ce qu'on va rouvrir la convention collective du côté du syndicat des joueurs de la Ligue nationale de hockey? Ils ont une décision à prendre. Alors, on revient tout de suite.